Bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une plongée dans une histoire locale, une histoire qui peut paraître toute petite, mais qui en fait résonne avec la grande histoire.
Tout à fait.
Tout part d'un texte qu'on a sous les yeux, un récit qui concerne le pont de Châtel-de-Neuvre sur la rivière Allier. Et la scène se passe au printemps 1940. La France est en pleine débâcle, l'armée française recule, et là, une décision est prise. Une décision radicale pour freiner l'ennemi.
Et lourde de conséquences pour les habitants.
Exactement.
Et c'est justement là que notre analyse va commencer. Ce qui est fascinant avec ce document, c'est le paradoxe qu'il soulève.
C'est-à-dire ?
On part d'un acte de destruction militaire, un événement tragique, purement stratégique, et des années plus tard, ça va donner naissance à une solution d'ingénierie complètement inattendue.
Venue d'ailleurs, venue d'un tout autre théâtre d'opération, oui.
On va suivre le parcours de ce pont, ou plutôt de ses absences, de ses réincarnations, pour voir comment un petit village de l'Allier se retrouve lié au débarquement de Normandie.
Le fameux provisoire qui va durer, comme le dit le texte.
C'est ça. C'est toute l'histoire.
Alors repartons de là, juin 1940. Le texte nous dépeint une situation de chaos, en fait. L'armée allemande avance très vite vers le sud, la retraite française est générale.
Et la rivière Allier devient une ligne de défense.
Une ligne de défense naturelle. Un obstacle. Et il faut le renforcer. Donc la tactique choisie, c'est un peu la politique de la terre brûlée. On fait sauter les ponts.
Oui.
Le document mentionne plusieurs, celui de Moulins, de Chazeuil, et bien sûr celui qui nous intéresse, Châtel-de-Neuvre.
Et là, vous mettez le doigt sur un point qui est essentiel. Ce n'est pas un acte de panique de quelques soldats isolés. Hein.
Non, c'est coordonné.
C'est une manœuvre militaire coordonnée, calculée. C'est un classique de la stratégie militaire, en fait. Hein. Utiliser la géographie pour gagner du temps. En détruisant ces ponts, on espère transformer la rivière en une sorte de muraille liquide pour ralentir les blindés allemands.
C'est logique, d'un point de vue militaire.
Très logique. Mais les conséquences humaines, elles, sont immédiates.
Et dramatiques.
Et c'est là que la grande stratégie percute la vie des gens, la petite histoire. Le texte emploie le mot « escarmouche ». Il faut s'imaginer la scène.
Oui.
Les soldats français sont sur la rive gauche, en défense, et en face, sur la fameuse route nationale 7, les Allemands qui progressent. Il y a des échanges de tirs.
Mmh. Et très vite, le bourg de Châtel, le village lui-même, se retrouve sous le feu. Des obus tombent. Et ils font deux victimes civiles.
Et le texte nous donne un détail sur leur mort qui est absolument poignant.
Mais c'est terrible.
C'est d'une tristesse. Le texte précise qu'elles ont été tuées parce qu'elles étaient trop curieuses. Elles sont sorties de leur abri pour voir ce qui se passait.
Juste pour regarder.
Voilà. Et ce détail, il humanise tout. D'un coup, on quitte la stratégie, les cartes d'état-major, et on est dans la réalité crue de la guerre pour les civils. Ces deux personnes ne sont plus des pertes anonymes. Elles sont victimes d'un réflexe humain. La curiosité. Un réflexe qui leur a été fatal.
Ça nous rappelle que la guerre, ce n'est pas que des armées, c'est des vies ordinaires qui basculent.
Exactement.
Bon, le pot a sauté. La bataille est passée. Mais pour les habitants, c'est le début d'une autre épreuve. Une épreuve beaucoup plus longue. Le document décrit très bien cette vie qui doit se réorganiser, couper en deux.
C'est la question très concrète, oui.
Comment on fait ? Le lien qui unissait les deux rives, et donc les gens, les fermes, les commerces, il n'existe plus.
Alors, quelle est la première solution ?
La première solution, c'est un bac. On imagine un grand radeau pour faire passer les gens, les marchandises. Mais il y a un problème, un gros problème. Le document nous donne une précision technique qui est capitale.
Laquelle ?
Le passage est limité aux véhicules de moins de 2,5 tonnes.
Ah oui, quand même. Mais concrètement, 2,5 tonnes dans la France de 1941, ça représente quoi ? Est-ce qu'un camion peut passer ? C'est une excellente question. 2,5 tonnes, c'est très peu. Un petit camion de l'époque à vide, il pèse déjà presque 2 tonnes.
Donc, on ne transporte quasiment rien.
Autant dire que le transport de marchandises lourdes, de matériaux, même de récoltes en grande quantité, c'est impossible. Pour les agriculteurs, pour les artisans, c'est toute la vie économique qui est étranglée, en fait.
Le village est isolé ?
C'est ça, isolé. On traverse plus que pour l'essentiel, le strict nécessaire.
Et même ça, apparemment, ça n'a pas duré. Parce que le texte mentionne une deuxième étape, la construction rapide d'une passerelle.
Oui, une structure plus légère, on imagine, pour les piétons, peut-être des charrettes.
Mais là encore, c'est précaire. Le document insiste beaucoup sur sa fragilité. Il nous dit qu'elle est emportée par les crues de l'hiver 1942-1943.
Il ne faut pas oublier que l'Allier est une rivière puissante. L'hiver, elle peut être intraitable.
Et là, la situation devient vraiment intéressante, parce que le texte est très clair. Les forces d'occupation, qui sont là, ne vont rien faire pour reconstruire le pont.
Absolument rien. Et ce n'est pas un oubli. Pendant toute la guerre, le problème va rester entier. Et cette inaction, elle est très révélatrice des priorités de l'occupant.
Le contrôle militaire.
Le contrôle militaire et l'exploitation des ressources. Le confort ou même la survie économique des populations locales, c'était vraiment le cadet de leurs soucis. Cette coupure physique, elle devient le symbole d'une France fracturée, laissée à l'abandon.
On imagine le sentiment d'impuissance des habitants.
Pendant des années.
Donc on a cette population qui vit dans des conditions très dures. Vient la libération. Soulagement. Mais le problème du pont, lui, il est toujours là. Les années passent. On arrive en 1947, 2 ans après la fin de la guerre.
Ça part une éternité.
Une éternité quand on est coupé du monde. Et c'est là qu'arrive enfin une solution. Et quelle solution? Le texte parle de l'arrivée du pont d'Arromanches.
Ah!
Rien que le nom, c'est incroyable. On parle bien du débarquement de Normandie, n'est-ce pas?
On est en plein dedans, c'est la partie la plus spectaculaire de cette histoire. Et c'est un cas d'école de l'ingéniosité de l'après-guerre.
Alors, expliquez-nous, d'où vient ce pont?
Ce nouveau pont n'est pas construit de zéro. Il est assemblé avec des modules métalliques qui viennent tout droit du port artificiel Mulmerry, ce fameux port installé par les Alliés face à Arromanches, juste après le 6 juin 1944.
C'était une prouesse technique, ce port.
Une merveille d'ingénierie, oui. Un gigantesque ensemble de pontons, de jetées flottantes pour débarquer des millions d'hommes et de tonnes de matériel à l'abri des tempêtes. Le texte précise qu'il y avait plus de 15 km de jetées. Un mécano géant conçu pour la guerre.
Et une fois la guerre gagnée, ce port, il n'a plus d'utilité sur place.
Exactement. Il a été démantelé. Et c'est là que le génie français de l'après-guerre opère. Au lieu de tout envoyer à la ferraille, on a réutilisé ces pièces.
Et le texte mentionne une plaque commémorative. Une plaque qui existe toujours, avec des chiffres qui donnent le vertige. Il faut qu'on s'arrête une seconde dessus.
Allez-y.
On parle de 2,5 millions d'hommes, 500 000 de véhicules et 4 millions de tonnes de matériel qui ont transité par ces structures.
C'est absolument colossal. Et ça, ça change complètement notre perception de ce pont de village.
Ah ben oui.
Ce ne sont plus de simples poutrelles en acier, vous voyez. Chaque module assemblé à Châtel-de-Neuvre en 1947 a une mémoire en quelque sorte. Il a supporté le poids des jeeps, des chars Sherman, des camions qui ont libéré l'Europe. C'est la grande histoire qui vient se poser littéralement au-dessus d'une petite rivière de province pour réparer une blessure de cette même histoire. C'est fou quand on y pense.
C'est une image incroyable. Des tanks qui ont roulé sur les mêmes poutres métalliques qui ont ensuite permis à des générations d'habitants de Châtel-de-Neuvre d'aller au marché.
Ou de rendre visite à leur famille, oui. Le grand et le petit bout de l'histoire qui se touchent physiquement.
Et ce n'est pas un cas isolé, c'est ça qui est encore plus fort.
Non, et le document le précise bien. La récupération de ces éléments du port Mulberry a permis de reconstruire près de 200 ponts détruits en France.
200 ponts.
C'est une véritable épopée nationale de la reconstruction, ça. Imaginez la logistique des pièces conçues en secret en Angleterre, assemblées en Normandie dans l'urgence des combats, et puis réparties aux quatre coins de la France pour rebâtir le pays. C'est le symbole d'une France qui se relève avec les moyens du bord.
Avec une inventivité formidable.
Exactement.
Et on arrive au dernier acte de cette histoire, qui est peut-être le plus savoureux. Ce pont, assemblé en 1947, avec des reliques d'EDR, il était par nature provisoire.
Oui, bien sûr.
On l'a mis là en attendant de construire un vrai pont en béton. Sauf que, comme le dit si bien le texte, le provisoire va s'installer.
Et pour de bon.
Il a fallu attendre 1979 pour que le pont actuel soit inauguré. Plus de 30 ans. Mais comment c'est possible? Pourquoi est-ce qu'un pont provisoire reste en place si longtemps?
C'est le paradoxe final. Et il en dit très long sur la France des Trente Glorieuses. D'abord, ça prouve une chose. La qualité exceptionnelle de l'ingénierie militaire alliée. Ce qui était conçu pour durer quelques mois a tenu des décennies.
C'était du solide.
C'était du très solide. Ensuite, ça reflète surtout les priorités de la France d'après-guerre. La reconstruction, c'était une tâche immense. Il y avait des villes entières à rebâtir, des industries à relancer.
Et un pont qui fonctionnait, même provisoire,
n'était pas la priorité absolue. Tant qu'il tenait, les budgets allaient ailleurs. C'est le triomphe du système D. Du « si ça marche, on n'y touche pas », érigé en doctrine de gestion pendant une génération entière.
Ce pont, il a donc vu passer plusieurs générations. Il a accompagné le boom économique, les premières voitures populaires, les départs en vacances. Il est devenu une partie du paysage.
Oui, il est devenu la norme. Le provisoire est devenu le permanent. Les gens nés dans les années 50 ou 60 n'ont connu que ce pont métallique, ce vestige de la guerre, sans même forcément en connaître l'origine. Il s'est fondu dans le décor.
Alors, si on essaye de synthétiser ce parcours incroyable, on part d'un acte de guerre en 1940. La destruction d'un pont, une communauté plongée dans l'isolement.
Des années de galère.
Des années de galère, de solutions de fortune. Et on aboutit à une reconstruction qui est elle-même un acte d'histoire, puisqu'on recycle les outils de la victoire de 1944.
C'est une boucle parfaite.
Ce simple pont de village devient une sorte de capsule temporelle. Il connecte la défaite de 40, le débarquement, la reconstruction, les Trente Glorieuses. Et une stèle, nous dit le texte, est toujours là pour le rappeler.
Oui, et c'est ça le véritable enseignement de ce texte pour moi. C'est que les objets les plus banals de notre quotidien ne sont pas juste des témoins passifs de l'histoire. Ils en sont souvent le produit direct. Ce pont n'existe que parce que la guerre a eu lieu. De sa destruction à sa reconstruction avec des matériaux de guerre, c'est l'histoire matérialisée dans l'acier.
Vu comme ça.
Et ça nous amène à une question plus large, une invitation à regarder autour de nous, en fait. Ce texte nous a fait suivre le voyage de quelques modules d'acier, fabriqués en Angleterre, utilisés en Normandie, réassemblés dans l'Allier. Mais combien d'autres infrastructures qu'on utilise chaque jour sans y penser, un bâtiment, une route, un autre pont, combien cache une histoire tout aussi extraordinaire?
Quelles épopées oubliées sont inscrites dans le paysage qui nous entoure?
Exactement. C'est la question que ça laisse en suspens.